Bonjour, ici François Nardou de Moncuq au studio des Alimons. Aujourd'hui, je vais continuer l'émission consacrée aux rites, traditions, mythes et légendes du solstice d'été, en commençant par un petit résumé introductif, reprenant les idées principales développées il y a 15 jours. Alors, le solstice d'été, qu'est-ce que c'est au fond ? Ben, c'est le moment où, dans sa course annuelle, le soleil atteint son maximum dans le ciel, son zénith annuel. C'est le pôle de l'année opposé à celui de Noël, qui est le pôle inférieur, le pôle involutif. Et c'est une période qui entre dans le cadre du calendrier agraire, liturgique, religieux, lunisolaire de toute l'Europe ancienne et de tout le bassin de la Méditerranée. Alors évidemment, c'est un moment de l'année qui est marqué par des rites tels que les feux de la Saint-Jean, les croix de la Saint-Jean, bénites par le curé de la paroisse à la messe de la Saint-Jean-Baptiste. C'est aussi le moment de proverbes sur le temps qu'il va faire d'après l'observation. Alors c'est particulièrement intéressant cette année où le 24 juin, Saint-Jean-Baptiste correspond à la pleine lune et on sait que le temps qu'il fait à ce moment-là dure jusqu'après la Noël. C'est le début de la saison des moissons qui était marquée par, outre les gros travaux, une alimentation particulière qui révélait bien les secrets et l'art culinaire de nos régions jusque vers les années 1950-60, avec des plats particuliers qui illustrent la cuisine carcinole, c'est-à-dire carcinoise. C'est aussi particulièrement dans nos régions quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que le nom de Quercy Blanc n'est pas sans raison. Il se réfère à ce qu'était la représentation de l'espace chez les Celtes, chez les Gaulois, pour qui tout ce qui était au sud était blanc et signe d'abondance. Les pays du sud, à leur droite, lorsqu'ils regardaient le soleil levant, à partir de Cahors par exemple, et du pêche de Roquebillière, étaient les pays blancs de toutes les abondances, les pays de l'été. Et cela marque notre région de Moncuq par certains rites et notamment certains lieux qui sont de hauts lieux sacrés tels que Saint-Jean-le-Froid où s'unissent en une union qui renouvelle le temps et le monde, le soleil levant du solstice d'été aux eaux inférieures, les eaux de source inférieures remontant du tréfonds du monde, du nadir du monde, au matin de la Saint-Jean-Baptiste, lorsque le soleil pénètre au fond de la grotte de Saint-Jean-le-Froid et éclaire la source. C'est là un lieu qui est marqué par d'autres rites et d'autres mythes, tels que celui du char conduit par des bœufs portant des barriques pleines d'eau du domaine de Saint-Géry que l'on vide dans le bassin de la grotte par un trou percé dans la voûte sommitale qui évoque le ciel, voûte dure pour les anciens. Alors ces rites de la Saint-Jean d'été ne sont pas strictement propres à l'Europe. Ils sont ni celtiques, ni gaulois, ni indo-européens, puisqu'on les retrouve dans des régions, par exemple, de la péninsule ibérique ou de notre sud-ouest, la Gascogne, entre la Garonne au nord et les Pyrénées au sud, où il n'y a jamais eu de gaulois. On les retrouve dans l'Espagne méditerranéenne, on les retrouve au Maghreb, où les gaulois sont totalement inconnus. Donc c'est donc là des rites qui évoquent une cosmologie, une vision du monde et une culture, je dirais presque même une civilisation préconsciente d'elle-même, civilisation qui remonte au moins au néolithique et qui unit en un seul ensemble la Méditerranée, le bassin méditerranéen, l'union de la Méditerranée et l'Europe dans son ensemble, de l'Atlantique jusqu'au-delà de l'Oural. C'est donc un monde culturel qui se manifeste par les traditions de la Saint-Jean d'été. Et dans nos régions, cela rejoint l'histoire la plus ancienne, l'histoire au moins médiévale de nos régions occitanes, à travers différents textes que nous a légués le Moyen-Âge. Alors je pense à deux textes. Une jarilla, c'est-à-dire un poème arabo-andalou en espagnol truffé d'arabe du XIIe siècle, XIe-XIIe, et un roman occitan connu, Flamenca, dont je vais vous parler dans le quart d'heure qui suit. Alors, il se trouve que lisant, il y a de cela bien longtemps, je finissais mes études de droit, l'anthologie de la littérature occitane du professeur Pierre Bec de l'université de Poitiers, j'ai trouvé un petit poème en castillan médiéval que l'on appelle une jarilla arabo-andalouse dans une forme de vers qui porte le nom de Mouassaha. Mouassaha pour les gens bon, qui, si on veut, avec un H. Elle date de la fin du XIe, début du XIIe siècle. Alors, son auteur est bien connu. C'était un certain Abul Abbas al-Asma al-Tutili qui était dit le ciego de Tudela, el ciego de Tudela, l'aveugle de Tudela. Tutili, ça veut dire celui de Tudela. En haute vallée de l'Ebre, on est donc là dans le nord de l'Espagne, aux extrémités nord de l'Espagne arabo-musulmane. Tudela a été reconquise en 1115 et l'auteur de ce petit poème est mort en 1123, probablement réfugié dans les régions d'Espagne restées musulmanes. Saragosse, la capitale de la vallée de l'Ebre, a été prise en 1118 par les comtes de Barcelone devenus rois d'Aragon. Alors ce petit poème, qui porte le nom de Jarilla, a été collationné par un chercheur espagnol, García Gómez, et vous la trouvez dans l'ouvrage de Pierre Beck, page 113. Je vais essayer de vous la lire, la partie espagnole est la plus facile. Albo día este día, día de Al-Ansara al-Hakka. Vestirei meul mudabai wa masukul rumha sakka. J'essaie de prononcer l'arabe correctement, d'après les conseils d'amis arabisants et de haut niveau. Sa traduction en espagnol, enfin en castillan, serait Albo día este día. Día de la San Juanada, vestiré mi jubón nuevo e iremos a quebrar lanzas. Alors, albo día este día, blanc jour ou jour blanc que ce jour-ci. Ou à l'aube de ce jour, pour certains. Enfin, jour blanc que ce jour-ci, jour de la Saint-Jean d'été, je vêtirai mon pourpoint neuf et nous irons rompre des lances. Un de mes amis arabisants et hispanisants a traduit différemment. Alors, il a repris le texte. Albo día este día, día de Al-Ansara al-Hakka. Alors là, Al-Ansara al-Hakka, il n'y a pas de problème, on sait ce que ça veut dire. À l'aube de ce jour, jour des partisans de la vérité, les Ansar, les compagnons de Mahomet à Médine, les Médinois qui ont adopté l'islam, qui ont adhéré à l'islam et qui sont devenus des compagnons, des partisans de Mahomet. Ça m'a fait penser au Al-Ul-Hak, les frères de la vérité du Proche-Orient médiéval. Bestirei meul mudabai, monsieur Zenaidi a traduit, je mettrai mon habit teinté. Et iremos a quebrar lanzas, il n'y a pas de problème, alors, nous irons rompre des lances, monsieur Zenaidi a traduit, nous irons à la joute pour oublier nos soucis. Il a mieux senti que moi l'esprit et l'atmosphère poétique qu'évoque ce quatrième. Là, une traduction un peu éloignée du texte est quelquefois meilleure. Alors on s'aperçoit d'abord que le jour de la Saint-Jean-Baptiste, à la San Juanada, portait le nom de jour des compagnons de la vérité, des partisans de la vérité, donc du Dieu unique, ce qu'on appelle en arabe des Hanoufa, le pluriel de Hanif, les mystiques ascètes monothéistes. On voit que dans ce texte, le terme blanc qualifie le jour de la Saint-Jean-Baptiste par son aspect maximum d'intensité de la lumière solaire, ce qu'on appelle en occitan « l'ulune esbleutissen », la lumière qui éblouit. L'impression que donne le texte, c'est qu'on a une vision de la Saint-Jean-Baptiste comme étant celle du maximum de l'intensité de la lumière solaire et d'un jour de blancheur, la blancheur lumineuse, que précisément en gaulois, le fameux gaulois auquel je reviens souvent, et qui souvent est exprimé par deux termes. Alors, on a d'abord Windows qui, c'est blanc, mais c'est un blanc neutre. On a surtout deux mots, Argantos, le blanc brillant, et Leucos. Leucos qui est aux origines du nom de l'usèche, Leucotiakos. Par exemple, le terme Argantos se retrouve, je vous le disais, à Montcuq avec le pêche argan qui est proche du château de Marcillac. Alors là, sur Marcillac, on pourrait dire beaucoup de choses. En latin, c'est Albanus, qui est un dérivé de Albus, qui a donné l'occitan Albenc, l'Albenco, d'où le nom de Quercy Albenc pour le Quercy blanc. Donc un Quercy blanc de lumière. Au fond, le Quercy blanc, c'est le Quercy de Saint-Jean-Baptiste. C'est le pays du solstice d'été, le pays de la San Juanada. C'est le pays des Ansara al-Hakka, le pays des partisans du Dieu unique, à travers ce texte. Ce Quercy blanc de Montcuq, ce Quercy d'entre le Lot et le Tarn, rappelez-vous ce que disait dans son histoire du Quercy l'abbé Lacoste, qui voyait aux origines du Quercy méridional médiéval une ère d'extension de la domination d'une famille qui était celle, selon lui, des Atalriques, c'est-à-dire les riques, les puissants, Atal, nobles, Visigoths, qui seraient restés dans nos régions, même après la conquête de l'Aquitaine par Clovis en 507, Visigoths qui auraient peut-être abandonné leur arianisme, hérésie chrétienne, pour passer au catholicisme. et qui ferait, selon Lacoste, des pays d'entre l'Albigeois, origine de la famille de Saint-Didier, évêque de Cahors au 7e siècle, et la vallée du Lot. Lacoste nous disait que toutes les familles nobles médiévales de cette région descendaient des Athalrics. Ça ferait donc des barons de Luzèche, des nobles de Montcuq, des ratiers de Castelnau, des descendants d'une vieille famille locale de Visigoths qui auraient eu en quelque sorte dans leur héritage culturel une affection particulière pour les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, de la Saint-Jean d'été. C'est là ce qui m'avait frappé et ce que j'avais remarqué en lisant un article publié dans une revue savante espagnole 29 juin 2019, le professeur Mabel Billagra, dans un article intitulé « Celebrar San Juan en Al-Andalus de la Ansara a los Moriscos », célébrer la Saint-Jean d'été en Espagne musulmane depuis l'époque de la Ansara, c'est-à-dire le nom que portait en arabe le nom même de la Saint-Jean-Baptiste, au temps des Morisques, expulsés d'Espagne par Philippe II vers 1580 et des Bousières. Et dans cet article, Madame Billagra a montré que les chrétiens mozarabes d'Al-Andalus se comportaient, se faisaient les témoins de la célébration de la Saint-Jean d'été par les musulmans d'Espagne, musulmans par ailleurs d'origine proche-orientale, d'Arabie et surtout de Syrie, les troupes venues de Syrie qui ont occupé l'Espagne en 711. Et donc, on est là avec cette célébration de la Saint-Jean par les arabo-musulmans et les berbéro-arabo-musulmans d'Espagne, dans un cadre qui nous prouve que les Arabes du Moyen-Âge célébraient la Saint-Jean d'été, le solstice d'été, donc en Espagne, exactement dans les mêmes termes et selon les mêmes rites, selon les mêmes pratiques que les chrétiens. Il y avait un syncrétisme entre les traditions chrétiennes venues de l'époque romaine et romano-visigothique, du royaume visigoth d'Espagne, qui était imprégné de culture romaine et qui était devenu catholique en 589, après avoir été pendant un bon siècle hérétique-arien. On a là donc l'attestation par les recherches menées par le professeur Billagra de la coexistence, de la coalescence et du syncrétisme entre les traditions chrétiennes et arabo-musulmanes. Or, de la part des arabo-musulmans d'Espagne, cela prouve bien que les célébrations du solstice d'été, même christianisées et surtout christianisées, n'ont rien à voir avec toute référence à quelque celticité ou indo-européanité que ce soit. On est là bien loin du monde des druides, du monde des germains de l'Antiquité et de l'Europe du Nord. Dans la célébration du solstice d'été, il n'y a rien qui puisse être rattaché exclusivement au monde fantasmatique de l'indo-européanité, pour ne pas dire de l'indo-germanité, ce qu'on appelait l'arianité. On est donc là dans un monde de culture tout à fait médiévale, tout à fait différente. J'ai là quelques références de bibliographie que je vous communiquerai par le canal du site internet d'Antenne Doc. On s'aperçoit donc que ces rites du solstice d'été, qui ne sont pas celtiques, sont communs dans nos régions et à toutes les contrées qui vont de la Loire jusqu'aux Pyrénées. Et quand on sait que la Garonne et les Pyrénées n'ont jamais été celtisées, ça renforce ce que je vous disais quant au caractère pan-européen et pan-méditerranéen du solstice d'été. Nous allons maintenant nous quitter quelques secondes avant de parler de l'occitanité médiévale à travers le roman de Flamenca. Alors, nous allons donc continuer après cette incursion de saison en Espagne de l'Andalousie musulmane en parlant d'un autre texte qui nous vient du Moyen-Âge occitan, qui est connu. C'est le roman de Flamenca, il faudrait prononcer flamenco de nos jours, c'est-à-dire la flamboyante. Roman qui a posé beaucoup de problèmes, il a été édité, discuté, on y a beaucoup travaillé dessus. Et ce roman de flamenca, en occitan, a été écrit, on en est à peu près certain, au XIIIe siècle, après 1234, par un clerc, un homme d'église, un clergue, un moine de l'abbaye de Nantes, en Rouergue. Alors Nantes, ça veut dire la vallée, hein, en gaulois, un petit mot. Et il portait un nom, il s'appelait Bernardet, ça m'en fait un lointain cousin. Il était familier des cires de Sauve et d'Anduze, devenus de nos jours les Roquefeuilles, qui sont des descendants par les femmes des comtes de Toulouse. Et ce n'est pas sans raison, parce que les cires de Sauve et d'Anduze auraient dû devenir, d'après le testament de Jeanne de Toulouse, fille de Raymond VII, le dernier comte légitime. Raymond VII est mort en 1249, sa fille Jeanne a dû épouser un frère de Saint-Louis. Elle est morte quelques jours après son mari en 1271, et dans son testament, elle voulait léguer en toute souveraineté Montcuq, le Castel, la Châtellenie, qu'on appelle l'Honor, à ses cousins les Sauve et Anduze. En toute souveraineté, ça aurait fait de Montcuq une principauté indépendante. Et ce roman de Flamenca est à resituer dans cette optique-là. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il pose plein de problèmes. Le texte lui-même nous oblige à le dater de 1234 parce qu'il fallait que, d'après le roman, se situe dans une année, enfin dans un cycle de 4 ans, centré sur un tournoi qui avait lieu en 1234 pour la Saint-Jean d'été, c'est pour ça que je voulais vous en parler, et il fallait que cette année-là, la Pentecôte tomba un 11 juin et déporta la Saint-Barnabé au 18 juin. Ce qui ne s'est produit qu'en 1234. Mais les personnages cités dans le roman sont des personnages qui ont vécu à différentes époques. Ils n'ont pas été forcément contemporains. Et même des détails clés situeraient la scène vers 1140-1150, à la fin du principat d'Alphonse Jourdain et du début du principat de Raymond V de Toulouse. On est donc dans le temps des légendes. Alors, le roman se situe non pas vraiment dans nos régions occitanes, mais à Bourbon, qui est devenu depuis Bourbon-l'Archambault. Parce que tout simplement, à la fin du XIIIe siècle, après 1270, l'héritière de la seigneurie de Bourbon épousera Robert, comte de Clermont, sixième fils de Saint-Louis, et ancêtre par la même des Capétiens Bourbon, donc d'Henri IV, Louis XIV, Louis XV et compagnie. Et dans le roman, le comte de Toulouse figure parmi les combattants invité à ce tournoi. Le tournoi est une véritable fête, c'est une fête de cour d'honneur, de cour de justice, c'est une fête où la noblesse célèbre ses vertus, ses valeurs, et qui rassemble autour de la noblesse les populations des régions concernées, le clergé, et pour célébrer par des combats, des rites qui me paraissent fort en rapport avec la cosmologie lunisolaire ancienne de nos régions. Il faut savoir que le sceau des comtes de Toulouse porte, et ça a été remarqué par beaucoup de gens, accostant le personnage même du comte. Alors le comte, Raymond VI par exemple, est figuré revêtu non pas de la toge romaine, mais du manteau impérial romain, voire même du manteau des pontifices maximi, des souverains pontifes romains. Il a un diadème qui enserre sa chevelure. Il est assis sur une chaise curule, celle des consuls et des empereurs romains. Il porte sur ses genoux une épée, et dans une main, il tient un sceptre, et dans l'autre, un globe, qui sera remplacé par le castel des comtes de Toulouse, que l'on trouve par exemple sur le blason de Montcuq. Et il est surtout accosté du soleil à 12 rayons et de la lune en croissant. Ça fait donc des comtes de Toulouse des personnages lunisolaires, si on peut dire, qui ont recueilli en eux toutes les traditions qui tournent autour des rites et des mythes lunisolaires. Un de mes amis qui est docteur en histoire et disons, niveau professeur d'université me disait, en fait, monsieur Nardou, les comtes de Toulouse ont recueilli les mythes, les rituels, une connaissance ésotérique qui vient du monde celtique. Et en l'espèce, le comte de Toulouse du Raymond de Flamenca, on pense que c'est Raymond V, ça peut être aussi historiquement Raymond VII, d'après le roman, ce serait plutôt Raymond V. Il est figuré par les troubadours, notamment Peyre Cardenal, qui le décrit comme « Reis del Mund », soleil du monde. le comte de Toulouse, dans le roman, apparaît comme un véritable héros solaire. Le tournoi est présidé par Flamenca, la flamboyante. L'organisation du tournoi évoque absolument les combats rituels présidés par des druides du monde celtique. C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup frappé dans le roman de Flamenca, on voit que le champ du tournoi est un bas-fond entre des collines. Sur les collines s'organisent les spectateurs, les peuples, les commerçants, les artisans, les agriculteurs. Une tribune rassemble la noblesse et ce n'est pas le roi de France pourtant présent, donc Louis VII ou Louis IX comme l'on voudra, qui préside le tournoi. C'est assez curieusement, n'oubliez pas que la première épouse de Louis VII, c'est Aliénor d'Aquitaine. La mère de Saint-Louis, c'est Blanche de Castille, descendante authentique de Mahomet, par un de ses ancêtres et des princes musulmans d'Espagne, parce qu'il y avait des échanges d'épouses entre principautés chrétiennes du nord d'Espagne et principautés musulmanes. Donc, Blanche de Castille, et plus tard Louis XIV, descendent de Mahomet. Celui qui préside le tournoi, c'est Flamenca. Et Flamenca, la flamboyante, donc c'est le soleil, tout simplement. Or, dans ce tournoi, le comte de Toulouse est renversé de cheval. Il doit abandonner le combat et céder en rançon maintes richesses nobles, dont des chevaux, chevaux solaires, n'oubliez pas que le cheval est un animal solaire, au vainqueur, lequel est le comte de Nevers, Guillaume de Nevers, amant de Flamenca, laquelle est mariée avec le sire de Bourbon. Bon, c'est une situation classique dans les romans chevaleresques du Moyen-Âge occitan et pas qu'occitan. Pensez à La matière de Bretagne, au roman du roi Arthur. C'est moins vrai dans la matière de Charlemagne. Et dans ce tournoi, on s'aperçoit que finalement, le comte de Toulouse assume les fonctions, lors de la Saint-Jean d'été, du soleil, qui, à partir de la Saint-Jean, est en déclin et commence sa course vers le point involutif inférieur de l'année. Il semblerait donc que ce roman, qui a été écrit après 1234 par ce fameux Bernardette de l'abbaye de Nantes en Rouergue, familier des Sauveanduse, cousin des comtes de Toulouse et promis à hériter de la seigneurie de Montcuq, il semblerait donc que ce roman nous expose sous forme voilée que peut-être, ça c'est des conceptions médiévales, la croisade contre les Albigeois, contre les Cathares, a-t-elle été vue comme un combat sous le jugement de Dieu, un proelium en latin, rituel, c'est-à-dire un combat rituel, à la façon des combats rituels celtiques présidés par les druides, c'est pas du tout impossible. Il faut savoir que dans le monde celtique, lors de ces combats rituels entre champions ou entre troupes représentant deux tribus, deux peuples différents, on considérait que la victoire revenait au camp dont les druides étaient les plus puissants en magie. Vous retrouverez cela dans différents ouvrages. À propos du roman de Flamenca, ce qui m'avait beaucoup frappé dans l'organisation et la description du paysage et du combat et l'organisation du spectacle, c'était que ça évoquait absolument la mythologie des trois fonctions de Georges Dumézil. Au sommet, le roi, là c'est le soleil, c'est Flamenca, c'est la solaire, c'est la dame solaire. En dessous, ceux qui prient, les druides ou les membres de l'église. Puis en dessous, ceux qui combattent, les nobles. Et tout à fait en bas, ceux qui produisent. Vous connaissez la théorie, l'idéologie des trois fonctions. Dans la société d'Ancien Régime et médiéval, c'est surtout vrai dans le Royaume de France, c'est un peu moins vrai ailleurs, mais dans le Royaume de France, c'est particulièrement net, dans l'Ancien Empire carolingien, et ça va se retrouver dans toute l'Europe. Toute société ne peut durer et perdurer que par un équilibre lié à une harmonie interne entre les différentes composantes qui sont en quelque sorte en complémentarité les unes par rapport aux autres. Il y a ceux qui prient, qui assurent en quelque sorte la paix perpétuelle, la paix de Dieu, ceux qui combattent pour défendre le royaume et la chrétienté, voire même étendre la chrétienté, ce qu'on appellera dans le monde carolingien la dilatatio christianitatis, la dilatation de la chrétienté, et en dessous, ceux qui travaillent pour nourrir tout le monde. Se nourrir eux-mêmes et qui bénéficient à la fois de la protection assurée par les nobles qui combattent et de la protection magique ou religieuse assurée par ceux qui prient. Et au sommet se trouve le roi qui rassemble en lui les vertus des trois fonctions, et qui est à la fois choisi parmi les nobles et par les nobles, mais sous le contrôle du clergé, donc de l'Église. Or, dans le roman de Flamenca, cette fonction n'est pas assumée par le roi de France Louis VII, mais par Flamenca elle-même, qui est la fille du comte de Nemours, donc en pays d'Oï, entre Orléans et Paris, le pays de l'Archand, de Saint-Mathurin de l'Archand, grand pèlerinage protecteur du royaume. Flamenca est la fille du comte de Nemours, elle est promise au sire de Bourbon-l'Archambault, et il se trouve que celui-ci la maltraite, l'enferme dans une tour, ça c'est un thème commun, est fréquent. Elle est là donc, le soleil emprisonné dans une tour, persécutée par son mari. Un beau et jeune héros solaire vient la délivrer, c'est un nouvel Apollon. C'est Guillaume de Nevers, même étymologie que Nemours. Bourbon, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est la source qui bouillonne, c'est la source d'Apollon Borvo, l'Apollon gaulois, l'Apollon maître des sources et du soleil du printemps, c'est Bélénos. Et donc elle est l'épouse de Bélénos, elle est aimée par un Guillaume de Nevers qui est lui-même le seigneur d'un site dont l'étymologie en fait un lieu du sacré, même étymologie que Nemours, Nem, le sacré, la voûte céleste. Il faut savoir que pour les Gaulois, tout lieu sacré est une projection au sol de la voûte céleste ou de figures dessinées dans le ciel par les constellations. Et Flamenca, elle est le soleil que se dispute en quelque sorte un héros sacré, Guillaume de Nevers, et un Apollon maître des sources, le sire de Bourbon. Elle-même est la fille du sire de Nemours, donc elle est la fille du ciel. Et ça évoque le soleil, personnage féminin qui rayonne et qui est la dame du ciel. N'oubliez pas qu'en japonais, là j'avais commis une erreur dans une émission précédente, Amaterasu no Omikami, c'est un personnage féminin. La déesse soleil, ancêtre des empereurs du Japon, est une déesse. Et dans nos régions donc, on voit donc apparaître à travers le personnage de Flamenca l'illustration de ces théories qui font de Flamenca une personnalité solaire, mais qui font aussi du roman lui-même un roman solaire. Et cela donc se retrouve rejoint, peut-être, ou illustre, ou évoque, ou manifeste ce qu'étaient des conceptions de l'espace, du temps, du territoire, du calendrier, de l'univers, chez les élites cultivées de l'Occitanie, des pays occitans médiévaux. Là, on le voit très bien, c'est quand même un clerc, un homme d'église qui est l'auteur. Et il est sous le patronage des sires de Sauve et d'Anduze, cousins des comtes de Toulouse, des comtes solaires de Toulouse. J'oubliais de vous dire que le nom même des comtes de Sauve et d'Anduze est assez curieux. Parce que Saobo, c'est une forme occitane du latin selva, la forêt. Quant à Anduze, c'est Andutia, c'est le chemin vers le monde d'en bas, vers le monde des morts, c'est les enfers, c'est le monde des morts. Donc, avec les sires de Sauve et d'Anduze, on est dans un monde qui se réfère à ce qu'on peut appeler le monde de l'au-delà. La forêt des origines, thème majeur de la légende de Fondation de Mongkuk, et le monde d'en bas, le monde des morts, Andutia, qui revient à certaines dates de l'année, et entre autres en pays de Mongkuk et dans toute notre mythologie, pour la Saint-Jean d'été, ce qui illustre particulièrement les sculptures de l'abside de Saint-Hilaire de Mongkuk, église bâtie sous Alphonse de Poitiers, entre 1250 et 1271, le mari de Jeanne de Toulouse. Et les sculptures de l'abside évoquent certaines dates clés du calendrier lunisolaire, solstice d'hiver, Saint-Hilaire, et surtout, c'est le niveau sommital, solstice d'été. Il y a là sculpté des corbeilles de feuilles de chêne, avec des glands ou sans des glands, on voit mal du sol. Or, il se trouve que dans le monde celtique, et encore de nos jours, dans des régions qui n'ont jamais été celtiques, comme les pays baltes, on ne peut célébrer les rites du solstice d'été qu'à l'ombre des chênes, ou couronnés de feuilles de chêne. Les druides gaulois ne pouvaient valablement célébrer leurs rites que couronnés de rameaux de feuilles de chêne. L'église Saint-Hilaire de Mongkuk est orientée précisément vers le point où le soleil se lève le matin du solstice d'été. Et ce point à l'horizon céleste, à l'horizon terrestre, correspond au point où se croisent les lignes majeures des édifices primitifs fondateurs de Mongkuk, l'église Saint-Cernin occidentée, antérieure à Charlemagne, la tour bâtie vers 1100-1150 par les comtes de Toulouse, pour les comtes de Toulouse, et dont toutes les ouvertures désignent à l'horizon des points clés de levée lunaire, solaire et stellaire, points clés qui sont aussi ceux de lieux chargés de mythes et de rites, notamment, entre autres, Saint-Jean-le-Froid. Or, précisément, les lignes majeures de ces trois édifices, Saint-Cernin, disparu de nos jours depuis longtemps, l'Occidenté, la tour et Saint-Hilaire montrent à quoi à l'horizon non seulement le point de levée du soleil au solstice d'été, mais Saint-Jean-le-Froid. On est donc là, à Mongkuk, dans un lieu où la mythologie conservée et figée dans la pierre et qui n'est plus accessible à nos contemporains, elle était encore aux maîtres d'œuvre du XVe siècle qui ont fait réaliser les sculptures, parce que les sculptures sont relativement récentes, elles datent d'après 1450. Il y a là toute une histoire, tout un dossier à travers le choix de vie trop particulier que le sénéchal du roi en Quercy a obligé les nobles locaux à faire déposer. Enfin bref. Et donc on est là dans un moment où se fige, dans un souci de conservation de la mémoire, des rites et des mythes qui font de Montcuq un pays orienté vers les célébrations du solstice d'été. Nous allons donc, là maintenant, essayer d'entrer dans un petit résumé conclusif de cet exposé un peu long et parfois difficile. Pour résumer ces deux émissions, j'avais choisi trois thèmes. Ce qui tourne autour du soleil, de la pleine lune et du soleil, et des rites de pluie. Bon, il faut trouver toujours un fil. Alors, je vous l'ai dit tout au long des émissions précédentes, en pays de Quercy Blanc, certes, nous sommes en pays de feu de la Saint-Jean et de rites de la Saint-Jean-Baptiste à travers Saint-Jean-le-Froid. Il y a une chose auquel je ne pensais pas. Rappelez-vous que le débarquement le 6 juin, c'est quand même pas si loin que ça du solstice d'été, a été l'occasion d'un film qui s'appelle « Le jour le plus long ». Or, précisément, le solstice d'été, c'est aussi le jour le plus long. C'est un changement d'année. Un calendrier oublié, celui des peuples pasteurs et transhumants du bassin aquitain vers les Pyrénées. Alors que les transhumances du bassin aquitain, des pays de Moyenne-Garonne qui nous concernent, vers le Massif central, obéissent à un autre calendrier, à d'autres dates clés. C'est la Saint-Urbain, 25 mai, Saint-Géraud d'Aurillac, le 13 octobre. Mais les populations transhumantes de la Moyenne-Garonne vers les Pyrénées ont pour changement d'année la Saint-Jean-Baptiste. Et c'est vrai dans toutes les Pyrénées. La Saint-Jean d'été, donc. On est là dans un monde qui est évoqué également par, c'est bien connu, les fameux pétroglyphes, les gravures sur roche, datant de l'âge du bronze, vers 3000 avant notre ère, de populations de pasteurs transhumants, et qui sont bien connus au nord de Nice, dans la vallée des Merveilles, dans le parc du Mercantour. Ces gravures, que l'on connaît également en Scandinavie, évoquent des conflits possibles entre agriculteurs sédentaires et pasteurs transhumants. Ce n'est pas pour rien si, entre Quercy et Rouergue, une longue guerre s'est étendue sur 800 ans, entre moins 2500 et moins 1700, pour le passage des éleveurs transhumants du Rouergue vers le Quercy. Bon, ça a donné lieu à des fouilles archéologiques dans la région de Figeac. Et c'est toujours pareil, ça tourne autour de la transhumance de printemps, donc c'est marqué particulièrement par les rites du solstice d'été, où, à travers les feux de la Saint-Jean, une population d'agriculteurs sédentaires ou de pasteurs transhumants affirme son enracinement local et donc sa domination sur un territoire. On a remarqué, c'est là que ça illustre mon propos, ces feux de la Saint-Jean devaient en principe être toujours allumés sur des hauteurs, des pêches en occitan, ou bien des tucs, qui sont aussi des cucs. La forme la plus ancienne, c'est cuc, devenu tuc puis suc en occitan. Cuc est un mot pré-indo-européen, beaucoup plus vieux que le gaulois. Ça remonte à l'âge du bronze et au néolithique, et même avant. Ces lieux de feu de la Saint-Jean sur des hauteurs sont des monts qui ont, dans le monde gaulois, été voués à Lug Belos, le dieu du sommet du ciel, remplacé par Mercure, Mercurius, d'où Mercues. Mais c'est aussi le nom de Lozerte. Lozerte, ça n'a rien à voir avec le lézard, c'est l'agu d'Erta. D'Erta, c'est la chaînée. Et l'agu, c'est le génitif, le cas possessif de Lug. Ça veut dire la chaînée de Lug. Je vous disais que les rites de la Saint-Jean d'été devaient toujours être célébrés à l'ombre des chênes ou par des gens couronnés de feuilles de chêne. À Montcuq, c'est assez curieux parce que la Saint-Jean d'été est marquée en fond de vallée de la Barguelonne, au lieu dit et de nos jours actuellement connu sous le nom de Belloden, Belledan, mais il n'est pas question de dents, il est question en fait, c'est le vieux celtique, alors vraiment occitanisé et déformé, Bellidunium, la montagne, le mont de Lug Belos. Or, il y avait là une chapelle Saint-Jean de la Rivière. La rivière, c'est le fond de vallée inondable. San Juan de la Ribeiro. C'est pas le ruisseau, c'est son fond de vallée. Et il y avait là une chapelle sous le patronage des sires de Rouzé, par mariage unis avec les barons de Luzèche. Alors les Rouzé avaient pour emblème le lion solaire, que vous retrouvez sculpté aux clés de voûte de Saint-Avid de Belmonté et de Saint-Aignan de Rouzé. Finamande de Rouzé, la dernière des Rouzé, épouse le baron de Luzèche, Guilien des Luzèches, des Lucettes, dont les armoiries sont composées du griffon, animal solaire composite, et du croissant lunaire. La chapelle Saint-Aignan de Rouzé possède des sculptures dans l'angle sud-est, le tambour inférieur. C'est une frise de petites sculptures. On ne les voit qu'à lumière rasante, qui évoquent des rites de fondation qui auraient eu lieu pour le solstice d'été en ce lieu. Bon, je vous en parlerai dans une émission prochaine. On est donc là dans un pays où le solstice d'été est l'objet de beaucoup de rites et de mythes, entre autres autour des sources donneuses de pluie. Il y a certains proverbes qui font de Saint-Jean-Baptiste le maître des pluies, comme de Saint-Pierre ou de Saint-Martial. Can, se San Juan, lavo pas lai carrieros am ferratados, si Saint-Jean ne lave pas les rues avec des grands seaux d'eau, une ferrate, c'est un seau d'eau. Champeire las lavará en pays reglados. Saint-Pierre les lavera à coups de grêlons. Saint-Martial était un saint d'honneur de pluie, fêté le 30 juin, avec dans le Quercy et le Limousin une duplication le 3 juillet. Saint-Pierre, la Saint-Jean-Baptiste sont des saints d'honneur de pluie, sont des dates de rites où on invoque les saints d'honneur de pluie. Derrière Saint-Pierre se cache le grand héros solaire Gargan, maître des pierres levées, des peiros levados, que sont les menhirs, et des peiros lados, que sont les dolmens. Peiros lados, ça a donné pierre latte. Vous êtes là dans un pays où bien des choses tournent autour de ces mythes-là. Et autre chose qui apparaît, c'est les proverbes, bon, je vous la disais, les constatations autour du temps qui fait pour la pleine lune du mois de juin lorsqu'elle correspond au solstice d'été. Ça nous renvoie au calendrier lunisolaire gaulois qui fait donc de ce mois clé, le mois de Semi-Wissonios, le milieu de l'année, celui du milieu de la course annuelle du soleil. Et il se trouve que cette année 2021, si la pleine lune correspond à la nuit du 23 au 24 juin, ça fait une nouvelle lune pour le 10 ou le 11 juin Saint-Barnabé, un premier croissant pour le 13 ou le 14 juin, Ide romaine de juin, primitive pleine lune, une lunaison en cours pour laquelle le 17 et le 18 juin Saint-Avit de Missy ouvre la période solsticiale d'été, comme il le fait, bon, c'est normal dans ce calendrier-là, mais c'est particulièrement marqué cette année. Et nous sommes là donc en milieu de la course annuelle du soleil, notamment marqué par les sculptures de Saint-Aignan de Rouzé, de Saint-Avit de Belmonté, où Saint-Avit apparaît comme le dominus, le maître, si vous voulez, le patron d'une mélusine qui est figurée en dame des pluies. On est donc là dans un pays où bien des rites unissent les énergies de l'univers, les énergies du soleil et de l'eau, du feu et de l'eau, de la lumière et des ténèbres. C'est donc là un échange d'énergie qui se traduit par, entre autres, les orages de la fin juin, annonciateurs de fécondité. Comme me disait un de mes amis, Bruno Grotto, de Toulouse, originaire du Frioul, pour nous, les bonnes années, c'était les années d'été chaud mais pluvieux. On en vient donc à une conclusion qui montre que pour nos régions, le solstice d'été, c'est la période du maximum, du paroxysme de l'activité solaire, de la résurgence des sources de saints solaires. Des lieux solsticiaux se révèlent comme des centres axiaux du monde et du temps, et ce sont donc des lieux sacrés. Et parmi ces lieux sacrés, en figure lequel ? Saint-Jean le Froid, dont je vous disais qu'il est désigné à l'horizon de l'Est par les lignes axiales des trois édifices majeurs du vieux Montcuq, Saint-Cernin, Alpla, église occidentée, bâtie avant Charlemagne, la tour Donjon, bâtie vers 1100-1150, et Saint-Hilaire, bâtie vers 1250-1270. On est donc là dans un pays où, en quelque sorte, la géographie sacrée et l'histoire mythique tournent autour des valeurs, des notions, des concepts contenus et animés et illustrés par les rites, les mythes et les traditions du solstice d'été. J'espère que cet exposé, qui évidemment donnera lieu à d'autres développements qui s'enracineront dans celui-ci, ne vous aura pas déçu. Alors la prochaine fois, il sera question des sculptures de Saint-Aignan de Rouzet, et je crains que certains esprits mal informés en histoire des religions ne soient horrifiés. Je le ferai du reste, je ferai tout pour les révulser. Ceux de mes amis catholiques, pratiquants, militants connaissent mon appétence et mon goût, la manie que j'ai à les travailler aux tripes. Ils se connaissent, je ne les citerai pas. Alors pour la bibliographie, vous vous référerez au site internet d'Antenne Doc. Vous aurez des titres, des bouquins, des choses comme ça à lire. On n'est pas fini. Voilà, c'est François Nardou qui vous quitte après trois quarts d'heure d'émission. Des aliments. À la prochaine fois. Et comme on dit en occitan, tengash buscarane. Tenez-vous bien. Au revoir.